En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le mercredi 13 juin 2007 s'est déroulée sous la coupole la remise solennelle des Grands Prix des fondations de l'Institut de France. Vous pourrez entendre au cours de la retransmission de cet événement l'ouverture de la séance par Hélène Carrère-Dancos, présidente de l'Institut et secrétaire perpétuelle de l'Académie française, l'introduction de Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut, et le discours de Jean Saint-Lançon, président de l'Académie des sciences, intitulé « Le mécénat scientifique » des fondations de l'Institut. Les grands prix scientifiques ont ensuite été proclamés. François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, a remis le grand prix scientifique de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux au professeur Ogabara Dumbo, directeur du Malaria Research and Training Center de Bamako, pour ses travaux sur le paludisme. Vous entendrez donc son discours et la réponse du lauréat, Ogabara Dumbo. Le prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande a été décerné cette année au professeur Christine Edry-Seidman et au professeur Jonathan Seidman, tous les deux de la Harvard Medical School de Boston, pour leurs travaux de recherche qui ont conduit à la découverte des gènes impliqués dans certaines cardiopathies. Vous entendrez Alain Carpentier de l'Académie des sciences présenter le travail de ce couple de chercheurs américains. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a remis le prix scientifique de la Fondation Louis D à deux lauréats dans le domaine des anthropozoonoses. Ont été récompensés en 2007 Albert Osterhaus de l'OMS et du Centre médical Erasmus de Rotterdam et John Skihill de l'Université de Glasgow. Vous entendrez le discours de Jean-François Bach sur ce grand prix international scientifique. Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a remis le grand prix scientifique de la Fondation Simone Cino del Duca au professeur Jacques Pro de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris et à Jean-François Joigny de l'Institut Curie et de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris 6. Leurs travaux de recherche, qu'ils mènent dans le domaine des concepts et des techniques physiques, mis en œuvre dans l'étude du vivant, ont été récompensés cette année par la Fondation Louis D. Après le discours de Jean Dercourt, vous entendrez Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, pour la remise du Grand Prix Énergie 2007, décerné à Francis Eustache de l'École pratique des hautes études et de l'Université de Caen et à Béatrice Desgranges de l'INSERM pour leurs travaux consacrés à la pathologie de la mémoire. Après la proclamation des Grands Prix scientifiques, Hélène Carrère-Dancos a fait un discours consacré au thème du mécénat humanitaire et culturel des fondations de l'Institut de France. Dans ce cadre, Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, a décerné le prix humanitaire de la Fondation Louis D, cette année attribué à l'Association des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, pour leur projet « Le fleuron Saint-Michel ». Enfin, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, a proclamé le prix mondial de la Fondation Simone et Cino del Duca, décerné en 2007 à Mona Ozouf pour l'ensemble de son œuvre. Vous pourrez entendre les discours de Michel Albert et d'Hélène Carrère-Dancos, avec lesquels s'achève cette longue et belle séance de proclamation des grands prix de l'Institut de France pour l'année 2007. Retrouvons sous la coupole les académiciens, les mécènes, les lauréats et leurs invités réunis pour l'événement.
Monsieur le ministre et chers confrères, monsieur l'ambassadeur, messieurs les représentants des ambassadeurs, monsieur le procureur général, messieurs les secrétaires perpétuels, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les fondateurs, mesdames et messieurs, chers confrères, pour la troisième fois sous cette coupole, l'Institut de France ajoute à la séance annuelle de rentrée des cinq académies cette cérémonie devenue désormais de tradition, destinée à exprimer notre immense gratitude aux mécènes, dont beaucoup sont ici aujourd'hui. Leur générosité nous permet d'assumer désormais pleinement la mission naturelle qui incombe à une exceptionnelle communauté de savants le Parlement des savants se plaisait à dire, ses fondateurs, non seulement confronter nos savoirs, les partager, mais aussi encourager, partout, en tout domaine, les recherches, contribuer à l'innovation et au progrès si indispensables à l'avenir de notre pays. Cette séance est aussi pour nous l'occasion de saluer l'œuvre des lauréats de nos grands prix, qui se consacrent par leurs travaux à aider leurs semblables, à améliorer leurs conditions morales et physiques, et en dernier ressort, des efforts qui contribuent par l'esprit de solidarité qui préside à leurs travaux à créer entre les hommes un climat de confiance et de concorde. Le sujet de cette séance est, on le constate, la gratitude à l'égard de tous nos mécènes qui nous ont accordé leur confiance, à l'égard des lauréats qui nous font le don de leurs efforts, mais aussi à l'égard de nos confrères dont l'expertise, mise sans réserve au service de ce grand projet commun, nous permet d'exécuter les volontés de nos fondateurs. Interviendront au cours de cette séance M. Jean Salençon, vice-président de l'Académie des sciences, pour présenter le mécénat scientifique des fondations, puis M. François Gros, M. Alain Carpentier, M. Jean-François Bach, M. Jean Dercourt et Mme Nicole Ledouarin, qui présenteront les lauréats des différents prix dans ce domaine. Ensuite, je présenterai le mécénat humanitaire et culturel des fondations de l'Institut, puis nous présenterons, avec M. Michel Albert, les grands prix dans ce domaine. Mais je veux sans plus tarder donner la parole à mon confrère M. Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut.
Il m'est particulièrement agréable, en qualité de chancelier de l'Institut, que, en l'espace de 3 années seulement, la proclamation des grands prix des fondations soit devenue une nouvelle et significative tradition de l'Institut. J'aime le mot « proclamation », car il est nécessaire, en effet, une fois l'an, de faire savoir haut et fort la générosité des donateurs et l'excellence des lauréats. Nous voilà donc réunis pour rendre hommage aux hommes et aux femmes plus conscients que d'autres de l'ardente obligation incombant à tout citoyen d'œuvrer pour le renforcement des liens qui nous permettent de vivre ensemble par le don et par l'échange. Je salue du même élan les mécènes qui s'acquittent de ce devoir en donnant le fruit de leurs ressources et les lauréats qui, en acceptant ce don, leur permet d'agir plus avant, et à tous, je veux dire notre admiration et notre reconnaissance. Notre admiration, car les travaux préparatoires de sélection des lauréats menés au sein des fondations à l'Institut nous révèlent des hommes et des femmes d'exception qui se consacrent aux autres par leur recherche et par leur don de soi. Notre reconnaissance, car c'est l'honneur de l'Institut que d'avoir été choisi pour abriter ses fondations, de permettre à celles-ci d'être le bras armé de votre extraordinaire générosité. Et l'on voit bien que ce superflu dont vous vous privez devient vite, pour vous-même et pour les bénéficiaires, l'essentiel. J'aimerais citer notre confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Starobinski, dans son bel essai sur l'art et le don en 1994, intitulé « Largesse ». Il y a des vocations sincères, écrit Starobinski, des êtres prêts à donner de leur temps, leurs ressources, sans la moindre ostentation, en toute simplicité et bonté. On a scrupule aujourd'hui à prononcer des termes anciens tels que « libéralité » et « charité ». Ils ne cessent pourtant pas de désigner de hautes vertus dont la disparition effective serait un désastre. Quel bel hommage rendu à vous tous, mesdames et messieurs les mécènes. Il semble juste de souligner comment, sous l'égide des donateurs, s'écrivent au sein de l'Institut de France de nouvelles pages de l'histoire du mécénat. Si, aux États-Unis, le mécénat passe pour plus légitime que la subvention étatique, la France, elle, est encore frileuse et conserve une vision étroite et fiscaliste de cette forme de redistribution pourtant très efficace. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le mouvement ait été lancé et que le mécénat ait repris sa place dans notre économie marchande, comme dans notre vision globale de la société. C'est pour cela que l'Institut, dans la voie tracée vigoureusement par M. Pierre Messmer il y a quelques années, est choisi pour servir de creuset au projet de mécénat scientifique, culturel ou humanitaire. Car le cadre, l'expertise, la rigueur et le prestige qu'il propose offrent, témoignage et expérience à l'appui, ce que recherchent les mécènes du XXIe siècle. Des fondations se créent chaque année, avec cet incomparable lien de confiance entre l'Institut et les mécènes. Nous en sommes chaque jour honorés. Remplir ce devoir, scrupuleusement, est une façon de vous exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au nom de la société tout entière. L'histoire nous apprend de la vie des grands mécènes qu'il faut prendre soin de son bien, ne pas négliger sa fortune. Il faut la mettre au service d'autrui. Sous l'Antiquité, la fortune personnelle des meilleurs citoyens est considérée comme une possession sur laquelle la communauté tout entière a des droits et dont le patricien n'est que l'administrateur provisoire. Il s'agit de cet évergétisme, cher au professeur Paul Venn, qui caractérise les libéralités privées faites au public. Entendons par évergétisme l'étymologie même de l'expression grecque, faire du bien à la cité. C'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'évergétisme antique, dont le ressort était la vertu, prolongé d'ailleurs sous la Renaissance et dans toutes les sociétés vraiment aristocratiques, s'est mué en un mécénat libre et spontané. Le mécénat tel qu'il est aujourd'hui conçu par les donateurs ne se réduit pas à un simple financement. L'aide apportée trouve un prolongement concret dans les opérations et recherches financières dont le rayonnement éclaire la vie des hommes. C'est toujours de vertu qu'il s'agit en effet. Qui plus est, le mécénat que pratiquent les fondations abritées à l'Institut est plus qu'un mécénat. En donnant de l'argent dans un but déterminé et approuvé, le mécène vise au-delà. Il déborde l'action confiée à l'Institut et recherche des objectifs différents. Le mécénat ainsi créé témoigne d'une volonté d'exemplarité dans laquelle s'illustrent des vertus nouvelles et originales. Il s'agit de vertus de redistribution, de pérennité, de mobilisation, d'entraînement, d'innovation. L'Institut expérimente tous les jours l'action des mécènes engagés dans une démarche de redistribution librement choisie. On sait que pendant des siècles, le mécénat a déterminé les conditions de production et de communication des œuvres d'art. Mais ce modèle a évolué et il s'est étendu aux sciences et à l'aide humanitaire. Le mécénat est un échange où le don est compensé par ce qui n'a pas de prix, ce qui ne peut être chiffré, une œuvre d'art, une découverte scientifique, des vies sauvées, physiquement, mais aussi moralement. Si la sagesse populaire dit « qui du sien donne, Dieu lui redonne », c'est que le bien se diffuse et revient en pluie sur son auteur, membre de la communauté humaine. Le bien crée ou favorise le bien. Les fondations possèdent d'abord une vertu de pérennité d'une vie ou d'une action. Belle façon de faire muer une tradition familiale, l'attachement à une figure marquante et aimée en une œuvre, se perpétuant pour le plus grand bien de la société. Les actions récompensées ou soutenues par les fondations témoignent, pour certaines, d'une vertu de mobilisation. En premier lieu, une fondation est parfois conçue pour mobiliser toute une famille autour d'une valeur commune. C'est le cas de plusieurs importantes fondations, dont certaines sont hautement représentées ici, et que je salue. Sait-on jamais vraiment ce qu'il faut de générosité, d'oubli de soi, de confiance en la vie et d'amour des siens pour transformer un moment fort ou dramatique de la vie familiale pour en faire une œuvre d'espérance et de foi en l'avenir? L'Institut a le privilège de côtoyer ces personnalités, connues ou inconnues du grand public, et peut témoigner de leur engagement et de leur désintéressement. Lorsque le mécène est un chef d'entreprise important, il aspire à mobiliser ses cadres autour d'un projet. Cette mobilisation peut conduire les dirigeants de telles grandes sociétés à donner de leur temps, à apporter leurs compétences à un domaine d'activité différent du leur ou de leur formation d'origine. Ou bien les compétences et les connaissances qui existent au sein d'un grand groupe profiteront aux pays en voie de développement ou favoriseront un réseau de savoir scientifique au niveau international. Le mécénat, tel qu'il se réalise au sein des fondations de l'Institut, pourra aussi être doté d'une vertu d'entraînement. Il précède alors la reconnaissance publique de valeurs individuelles. Ainsi, tel lauréat d'un prix scientifique vient-il d'être nommé ministre de l'enseignement, de la culture et des sciences de son pays. Tel autre, qui a été distingué ici pour ses recherches, dont le thème a été couronné du prix Nobel de physique et de médecine l'année suivante. Le mécénat des fondations dévoile également des vertus d'innovation pour tenter de satisfaire des besoins auxquels la société ne répond pas ou pas encore. À titre d'exemple, dans le domaine humanitaire, prendre en compte la dimension d'insertion et non plus seulement celle d'assistance. Dans le domaine médical, lutter contre la douleur ou pour l'amélioration des soins palliatifs, domaine où notre société manque gravement de repères. Dans le domaine de la formation, aider au transfert de savoir et à la création de centres de formation dans des pays en voie de développement. Dans le domaine de l'éducation, chercher à améliorer les liens sociaux au bénéfice des jeunes défavorisés. Dans le domaine de l'art, enfin, faire de l'expression artistique un fondement du lien social dans des lieux publics où elle n'avait pas sa place jusqu'ici. Le mécénat est donc une redistribution qui dépasse le simple échange et bénéficie à l'ensemble de la société. Il repose sur une confiance dans l'homme et sa liberté de choisir. Il renforce la société civile. La société, en effet, sait souvent mieux que l'État ce qui lui convient. Et entre la redistribution par l'impôt et celle par le mécénat privé, la seconde est parfois plus proche des réalités et combien plus gratifiante. De nos jours, écrit Jean Starobinski, les dons véritables n'achètent aucune allégeance et ne servent aucune vanité. Ils doivent être gratuits, subordonnés à la justice et à une grande fin. La solidarité qui fait œuvre de discrétion ne prend pas forme de cérémonial mémorable. Les lieux pittoresques qui avaient été autrefois le théâtre de la largesse et de la charité n'ont plus cette fonction dans la civilisation d'aujourd'hui. L'Institut peut s'enorgueillir d'avoir donné une vie nouvelle à la tradition des lieux de largesse. Dans un esprit de responsabilité, de retenue, conscient du privilège d'œuvrer au bien commun, je suis heureux que soient réunis sous cette vénérable coupole, pour leur rendre honneur, les bienfaiteurs et les lauréats, héros modestes et modernes de notre aventure humaine, qu'ils en soient tous remerciés.
Merci, Monsieur le Chancelier. La parole est maintenant à Monsieur Jean Salençon, vice-président de l'Académie des sciences, qui va nous présenter le mécénat scientifique des fondations de l'Institut.
Il me revient cette année de présenter le mécénat scientifique des fondations de l'Institut de France, et je m'efforcerai de vous en décrire l'ampleur, les moyens d'action et l'utilité. En premier lieu, je souhaite, comme le fit l'année passée en cette même occasion mon confrère Édouard Brézin, alors président de notre Académie, rendre hommage à l'action accomplie par M. Pierre Messmer pendant la durée de son mandat de chancelier, action que, chancelier honoraire, il poursuit encore. En veillant personnellement à la rigueur de la gestion des fondations de l'Institut de France, à l'expertise irremplaçable des jurys et des rapporteurs chargés de sélectionner puis de classer les lauréats, dans le respect scrupuleux des objectifs fixés par les fondateurs, en concertation avec l'Institut de France, M. Messmer a été l'artisan du développement sans précédent du mécénat scientifique de notre Institut, tel qu'il vient d'être évoqué par M. le chancelier Gabriel de Breuil. M. le chancelier qui poursuit la démarche, et nous nous réjouissons de ce que de nouveaux mécènes choisissent l'Institut de France pour y abriter des fondations conformes à leurs valeurs éthiques pour soutenir la recherche scientifique dans le but du mieux-être de l'humanité. 5 fondations vous seront présentées dans la suite à l'occasion de la remise des grands prix scientifiques qu'elles attribuent. Je les cite donc maintenant sans plus de détails. La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, la Fondation Le Foulon de la Lande, la Fondation Louis D, la Fondation Simone et Chino del Duca et la Fondation Énergie. Chacune de ces fondations s'attache à la reconnaissance d'une œuvre de recherche scientifique, personnelle ou collective, par l'attribution d'un grand prix d'un montant significatif au plan international et, tout à la fois, apporte un fort soutien financier aux recherches du lauréat et éventuellement à celles d'autres équipes. Ce soutien est particulièrement important car il revêt une forme dégagée autant que faire se peut des lourdeurs de la gestion administrative. Ce sont des subventions dédiées, des contrats, des allocations de ce que nous appelons des post-docs, des équipements, etc. Maintenant, sans viser à l'exhaustivité, pour une meilleure vision du mécénat scientifique de l'Institut de France et de ses spécificités, en rendant hommage à nos donateurs, je souhaite évoquer les autres fondations qui contribuent à l'action de mécénat scientifique de l'Institut de France. La Fondation AGF agit dans le domaine de la recherche médicale et biomédicale. La Fondation Avenir Finance favorise toute recherche ou toute action liée à l'eau et, d'une manière générale, à l'environnement. Elle a ainsi permis cette année, à travers l'association Mille et Une Fontaines, l'installation de stations de purification d'eau dans 8 villages isolés au Cambodge. La Fondation Yves Cotterel concentre son activité sur les causes et les mécanismes d'évolution des scolioses idiopathiques. Elle rassemble chaque année les 25 équipes de chercheurs soutenues autour de sa mission, abolissant les frontières géographiques et disciplinaires. La Fondation Dalloz décerne chaque année un prix dans le domaine de la recherche en ophtalmologie. La Fondation Sophie Germain attribue chaque année un prix de mathématiques à de jeunes chercheurs. La Fondation Steria a pour objet de promouvoir et de soutenir toute action mettant les technologies de l'information au service de l'homme. Cette année, 2 bourses ont été remises par la Fondation pour former des élèves et des professeurs à l'outil informatique au Burkina Faso et pour créer une médiathèque à l'usage d'enfants hospitalisés en long séjour. Dans le domaine de l'environnement, la Fondation Botio du Lac contribue à la protection et à la sauvegarde des animaux avec une attention toute particulière portée aux animaux en voie de disparition. La Fondation Lécouzère soutient la pratique des modèles de gestion durable de nos forêts. La Fondation Yves Rocher, enfin, mène des actions d'éducation et de sensibilisation au monde végétal. Ses prix Terre de Femmes et Terra Ficaria récompensent des initiatives qui contribuent à la protection de notre planète et de sa flore. Ce mécénat n'a évidemment de sens que s'il est pertinemment dispensé. Les procédures pour assumer cette responsabilité essentielle sont prévues et détaillées dans les textes fondateurs et mises en place par l'Institut de France. Elles s'appuient sur les compétences des académies de l'Institut. Elles se caractérisent par leur rigueur et par leur reproductibilité dans le temps, que garantissent la liberté, la sécurité et l'expertise que l'Institut n'a jamais cessé d'incarner. C'est la raison pour laquelle les fondateurs nous accordent leur confiance. Je profite de l'occasion qui m'est ici donnée de saluer et de remercier à nouveau ceux qui sont en fait à l'origine de cette séance. Je me propose maintenant de décrire brièvement la longue démarche suivie pour l'attribution des grands prix. Démarche en tout point conforme aux standards internationaux qui sont garants, en quelque sorte, de l'assurance qualité. L'appel à candidature est effectué au plan national, européen ou international selon les libellés des prix. L'Institut s'appuie pour cela sur les réseaux relationnels des membres de ces académies et évidemment de leurs associés étrangers. L'Institut publie éventuellement des annonces dans les grandes revues scientifiques et il fait appel au réseau des attachés scientifiques français à l'étranger et des attachés scientifiques étrangers en poste à Paris pour ce qui concerne les grands prix internationaux. Tous les dossiers de candidature sont évalués par les membres du jury constitué à l'Institut de France, selon les dispositions propres à chaque fondation et selon les cas, ils sont transmis à des rapporteurs étrangers. Sur la base de ces évaluations, le jury se réunit pour délibérer et proposer une liste d'au moins 2 candidats classés au conseil d'administration de la fondation concernée. Enfin, il revient à ce conseil, qui statue donc en dernier ressort, de prendre la décision finale. Cette procédure appelle quelques remarques. Il va de soi que l'Institut n'attribue aucun de ses grands prix ou subventions à l'un quelconque de ses membres. En revanche, on ne s'étonnera pas que certains des lauréats ainsi distingués soient par la suite appelés à faire partie de l'une ou l'autre de nos compagnies. C'est à vrai dire le contraire qui serait surprenant. Le caractère international des appels à candidature surprend certains. Pourquoi donc attribuer grands prix et subventions à des chercheurs et des équipes de recherche étrangers alors que la recherche française ne roule pas sur l'or? La première réponse à cette question est évidente et sans appel. L'Institut de France respecte scrupuleusement la volonté des donateurs. C'est à dessein que j'ai énoncé plus haut les objets de certaines fondations où le bien ou mieux-être de l'humanité sont souvent explicitement invoqués et le caractère international des candidatures recherchées tout aussi explicitement mentionné dans le libellé. Mais on peut aller plus loin dans la réflexion et s'interroger sur la signification de la grandeur d'un prix. Si le montant de la récompense et des soutiens n'est pas sans importance, il est bien clair que c'est par la richesse de la compétition qu'il suscite que le prix se distingue. Le scientifique cherche la reconnaissance, et celle-ci est d'autant plus forte que la compétition est plus ouverte, qui le situe face à ses pairs. Dans cet esprit, je ne peux m'empêcher de rappeler que l'universalité du savoir face aux identités nationales sera l'un des thèmes de la réunion des académies européennes conviée par M. le chancelier Gabriel De Broglie en octobre prochain. Qu'il soit permis ici à l'ingénieur des ponts et chaussées que je suis de citer Vitruve dans son 6e livre d'architecture. Parmi les hommes, il n'y a que ceux qui sont savants qui ne soient point étrangers en dehors de leur pays. S'ils viennent à perdre leurs amis, ils ne manqueront point de personne pour les remplacer. Ils sont citoyens de toutes les villes. Les grands prix scientifiques de l'Institut de France sont ainsi reconnus dans la hiérarchie internationale des prix scientifiques. Les nouvelles autorités de notre pays, chargées de la recherche, soucieuses de stabiliser en France nos meilleurs chercheurs, disposent là d'une des meilleures évaluations. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le Vice-président de l'Académie des sciences, pour cette présentation du mécénat scientifique des fondations de l'Institut. Avant de donner la parole à Monsieur François Gros pour la proclamation du lauréat du prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, je tiens à saluer tout particulièrement le président Alain Mérieux, Madame Mérieux et Monsieur Alexandre Mérieux, ici présents. J'imagine ce qu'ils éprouvent en entendant résonner sous cette coupole les prénoms de leurs deux fils et frères, Christophe et Rodolphe, enlevés trop tôt à leur affection en pleine force de l'âge. Qu'ils m'autorisent à leur dire, en mon nom et au nom de l'Institut, notre très profonde et déférente sympathie. La parole est à Monsieur François Gros pour la proclamation du lauréat du prix Christophe Mérieux.
L'un des grands fléaux de notre temps qui continue de mobiliser la recherche scientifique et médicale du monde entier, c'est la persistance ou la résurgence d'une gamme étendue de maladies infectieuses qui frappe surtout les pays pauvres de l'hémisphère sud. Nous ne devons pas oublier qu'en ce siècle où les progrès de la technique sont fulgurants, où les promesses qu'elles recèlent dépassent parfois l'imagination, des millions d'enfants et d'adultes meurent encore chaque année de faim, des conflits ou sont décimés par ce que l'OMS appelle les maladies de la pauvreté, le sida, paludisme, tuberculose. Sans parler de la myriade d'affections de l'enfance que l'on est convenu d'appeler les maladies tropicales négligées, c'est-à-dire les maladies de prévention vaccinale, les maladies émergentes, certaines parasitoses. L'OMS a récemment avancé le chiffre de 10 à 12 millions de décès infantiles annuels, les pays en développement payant certainement là, vous le savez, le plus lourd tribut. La France, depuis Louis Pasteur, a toujours occupé une place exceptionnelle dans la lutte contre ces fléaux et dans leur prévention. La lignée des Mérieux s'y est illustrée à plus d'un titre, notamment dans la production des vaccins. Qui ne connaît ses réalisations au plan industriel, certes, mais aussi scientifique, médical, social. Aujourd'hui, la générosité d'Alain et de Chantal Mérieux est à l'origine de la fondation qu'ils ont voulu créer avec l'Institut de France à la mémoire de deux de leurs fils dont on sait le tragique destin, comme vient de le répéter Madame la secrétaire perpétuelle. Cette fondation œuvre depuis plusieurs années pour la recherche scientifique appliquée, pour la santé publique, pour l'éducation scolaire, le microcrédit, etc. Elle œuvre ainsi au Cambodge, en Haïti, au Mali et depuis peu à Madagascar. Au Cambodge, la fondation, par exemple, a participé à l'équipement et au fonctionnement du laboratoire de microbiologie de la faculté de pharmacie de Phnom Penh. Elle a permis au Mali la création, la construction et l'équipement du laboratoire de biologie clinique au centre qui porte le nom de Charles Mérieux, le centre de Bamako, avec l'objectif d'en faire un centre de référence en biologie médicale pour toute l'Afrique. En Haïti, elle développe un programme de microcrédits qui sont alloués à des femmes affectées par le virus du sida, ce qui a permis cette année notamment d'assister et d'aider 200 d'entre elles. Or, pour la première fois, vient d'être créé par son conseil d'administration un grand prix d'un montant élevé, d'un montant de 400 000 euros, le prix Christophe Mérieux, afin d'encourager la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en développement. La Fondation est fière de ce que son tout premier lauréat soit un scientifique, médecin, épidémiologiste du Mali. Au parcours exceptionnel, le professeur Ogobara Dumbo, dont les travaux sur le paludisme lui ont valu une renommée internationale. On sait que le paludisme est causé par un parasite du sang qui fut découvert par le français Lavran, ce qui lui valut le prix Nobel en 1907. Il s'agit notamment du Plasmodium, dont une espèce particulière, dite Falciparum, que véhiculent dans leurs glandes salivaires les redoutables insectes que sont les anopheles peut entraîner la mort en causant de graves anémies et des désordres neurologiques. Plus d'un million de personnes meurent encore chaque année. En dépit d'efforts de recherche considérables, on ne dispose pas encore d'un vaccin efficace. De surcroît apparaissent très souvent des formes qui sont résistantes aux antimalariques telles que la chloroquine. Le professeur Doumbo, qui est reconnu, comme je l'ai dit, comme l'un des meilleurs spécialistes au plan international, a obtenu sa formation doctorale en France, à Marseille et à Montpellier. Il y a mené ses premières recherches, les a poursuivies aux États-Unis, notamment à Baltimore, à l'Université de Harvard, et bien sûr au Mali. Il est le fondateur et le directeur d'un centre aujourd'hui réputé, le Malaria Research and Training Center, ou MRTC, de Bamako, qui est rattaché à la faculté de médecine de cette ville. Ce centre s'est affirmé depuis 15 années comme l'une des rares structures de recherche sur le paludisme de niveau international qui soit animée par des chercheurs locaux en Afrique. Il collabore étroitement avec l'OMS, avec le National Institute of Health, avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui toutes reconnaissent en lui un centre de référence tout à fait exceptionnel. En 2001, le MRTC s'est illustré en découvrant le gène de résistance à la chloroquine et en établissant de façon définitive l'inefficacité de ce produit, pourtant d'usage classique. On lui doit aussi de remarquables travaux sur l'épidémiologie régionale de transmission du paludisme, sur les relations entre le polymorphisme des globules rouges et la sensibilité aux parasites, sur les bases génétiques de la sensibilité, sur les mécanismes de protection immunitaire qui devraient faciliter, bien sûr, l'identification des candidats vaccins antipaludiques. En 2005, ce centre a également découvert une nouvelle protéine présente à la surface des globules rouges infectés, ce qui ouvre évidemment des pistes vaccinales très importantes. Enfin, ce MRTC, ce centre, est un remarquable centre de formation des chercheurs en biomédecine pour une grande partie de l'Afrique, ainsi qu'un centre de réflexion sur l'éthique médicale. Avec le professeur Doumbo, mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'un des plus brillants représentants de cette Afrique culturelle et scientifique qui s'efforce de prendre en main son propre destin tout en respectant les critères d'excellence. Je vous remercie.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. J'invite le professeur Ogbara Doumbo à la tribune.
Madame, monsieur, je crois que je me dois de remercier le peuple du Mali et le gouvernement qui m'a permis d'avoir l'instruction et l'opportunité de faire la recherche. Et tous mes formateurs qui ont cru pour la première fois à la capacité des jeunes chercheurs africains et en les multipliant dans la recherche. J'aimerais nommer ici, avec une très forte émotion, ceux qui m'ont quitté en me donnant cette responsabilité à Bamako, le professeur Philippe Rank, le professeur Bernard Duflo et le professeur Michel Kindissi. C'est eux qui ont bâti cette équipe du Mali et j'ai eu la charge pour continuer leur œuvre. Je dirais ceci à ma famille et à tous les amis qui sont ici présents, qui ne m'ont pas vu très souvent en famille, et tout le soutien que j'ai reçu d'eux et toute la reconnaissance qui est une reconnaissance commune. J'aimerais dire à la famille Meurieux et à toute la Fondation que vous me donnez ici une responsabilité importante en tant que jeune chercheur, à mes confiances et prix, mais aussi à toute mon équipe, l'équipe du Malaria Research and Training Center de l'Université de Bamako, avec un ami ici présent, le professeur Dapa. J'aimerais dire que entre Christophe et Hugo, ça a été la rencontre d'un fils de paysan, mais aussi un fils d'un industriel, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Bamako. Il y a eu le coup de foudre scientifique, parce qu'immédiatement, Christophe a cru à ce qu'il faisait l'équipe de Bamako, et il a toujours cru à cela. Ceci est extrêmement important. Ce qui nous réunit ici, Christophe et moi, c'est vraiment la confiance à la science et l'humanisme que nous partageons. Donc j'aimerais dire que c'est une responsabilité et peut-être d'ici 5 ans, nous allons vous donner rendez-vous pour mériter la confiance qui nous a été prêtée actuellement. Et je remercie l'ensemble des académiciens et le peuple du Mali et je vous demande toute la bénédiction pour qu'on puisse continuer notre œuvre. Je vous remercie.
Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant de poursuivre la lecture de ce palmarès, juste de préciser que si le professeur Doumbo a pris la parole, c'est parce que c'est exceptionnel, c'est un hommage à Rodolphe et Christophe Mérieux. Mais à part lui, les lauréats sont invités à monter à la tribune pour recevoir le prix, mais non pour remercier tout simplement parce que nous n'aurons pas le temps de les écouter tous et nous aimerions tellement. Je vous remercie de le comprendre et je donne la parole à Monsieur le professeur Alain Carpentier pour la proclamation des lauréats du prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande.
Madame le Président, Monsieur le Chancelier honoraire, Mesdames, Messieurs, je dois vous conter une belle histoire que j'intitulerai « Les femmes et la science ». Il y a deux manières pour une femme de servir la science. La première est le mécénat, la seconde est la recherche. Madame Le Foulon est l'exemple même de la première manière. Héritière d'une entreprise pharmaceutique florissante, les laboratoires de la Lande, elle décide avec son mari de consacrer une part de son héritage à une fondation pour honorer la mémoire de son père, Monsieur Delalande, Michel Delalande. Et durant toute son enfance, elle a baigné dans l'histoire de cette entreprise. Elle a même été secrétaire de son père. La potion magique qui est à l'origine du succès de ce laboratoire, c'est un médicament pour soutenir le cœur qui s'appelle le Solucanf. Alors tout naturellement, la Fondation soutiendra en priorité les recherches sur le cœur. Née en décembre 2000 sous l'égide du chancelier Pierre Messmer, la Fondation Le Foulon de la Lande Institut du Cœur consacre chaque année 460 000 euros à des bourses pour des jeunes chercheurs français et 500 000 euros pour le Grand Prix, soit avec des aides culturelles, plus d'un million d'euros ainsi distribués. C'est considérable, c'est exemplaire. Merci, Madame, pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Le Grand Prix de la Fondation est décerné chaque année à un scientifique de talent sur proposition d'un jury international, dont l'ancien président du prix Nobel, Bengt Samuelson. C'est une lourde responsabilité. Je saisis cette occasion pour remercier les membres du jury pour leur travail, leur rigueur et leur discernement. Cette année, nous avions retenu 14 propositions de candidature. Après de vifs débats, deux candidatures se détachent nettement. La première concerne une femme, Christine Seidman, médecin, chercheur, professeur de médecine à l'université Harvard. Et le hasard fait que la seconde candidature concerne encore une femme, et la même, Christine Seidman, mais cette fois avec son époux, Jonathan Seidman, biochimiste, chercheur, professeur de génétique à la même université à Harvard. Christine et Jonathan, Cricket and John pour les intimes, travaillent l'un et l'autre dans le même laboratoire depuis plus de 25 ans. Leur adresse à Boston, 77 avenue Louis Pasteur, en français dans la plaque. Engagés dans la recherche depuis plus de 20 ans, les Seidman n'ont cessé de travailler ensemble sur leur sujet de prédilection, la génétique des maladies cardiovasculaires. La génétique, c'est la science des gènes. Les gènes, ce sont ces unités d'ADN logées dans le noyau de nos cellules. Ils contiennent toutes les informations nécessaires à la fabrication des protéines dont nous sommes constitués. On peut les comparer à des perles enfilées qui, en des arrangements diverses, formeraient un collier caractéristique de chacun d'entre nous. Il suffit qu'une perle manque, soit défectueuse ou mal placée, pour générer une malformation ou une maladie. On comprend que identifier ces perles fautives, je veux dire ces gènes anormaux, est le premier pas nécessaire pour corriger ces maladies. Christine et Jonathan Seidman y consacrent leur vie. En 20 ans, ils ont identifié plus d'une douzaine de gènes responsables des maladies ou malformations cardiaques. Le premier gène qu'ils décrivent en 1986 est responsable d'une curieuse maladie que je connais bien, caractérisée par le fait que le cœur fabrique trop de muscles et qu'il finit donc par combler en partie la cavité ventriculaire. Son nom est la cardiomyopathie obstructive, fréquente, parfois familiale, parfois acquise. C'est Christine qui, avec une énergie infatigable, parcourt les États-Unis pour prélever le sang des malades et de leurs familles. Chaque fois qu'elle entend parler d'une famille à risque, elle saisit l'occasion, saute dans un train, un avion, une voiture. Je dînais hier à ses côtés et lui racontais que j'avais opéré 2 jours auparavant une jeune femme grecque porteuse d'une maladie cardiaque très rare. Alors elle se penche vers moi et me dit « Vous n'auriez pas un peu de son sang à me donner ?» Au laboratoire, le sang est analysé. Le génome identifié et des modèles de souris sont créés, reproduisant la maladie pour mieux la comprendre. Plus récemment, les Seidman ont élucidé le mécanisme de dérèglement des mouvements du calcium qui gouvernent la relaxation et la contraction du cœur. Ce dérèglement est responsable d'une autre maladie caractérisée par une dilatation du cœur, dénommée pour cette raison cardiomyopathie. Je garde en mémoire une jeune femme de 35 ans venue me consulter à l'hôpital européen Georges Pompidou parce qu'elle était essoufflée au moindre effort. Or, 6 mois auparavant, elle faisait de la plongée sous-marine et de la course à pied. Depuis, elle avait dû cesser toute activité, ne pouvait marcher, ne pouvait monter les escaliers. Un véritable drame. Tous les médicaments possibles ayant épuisé leur effet, la seule solution que je pouvais proposer était une transplantation cardiaque. Mais la transplantation d'un cœur, si c'est une opération spectaculaire, a un traitement anti-rejet qui comporte des risques. Et puis, le nombre des organes disponibles est limité. Alors, je me tourne vers les Seidman et je leur demande, serait-il possible un jour de détourner le cours de cette terrible maladie? La réponse est oui, si l'on arrive à connaître les facteurs qui déclenchent la toute première phase de ce dérèglement, ce à quoi ils s'occupent activement. Un journaliste demandait récemment « Mais enfin, qui fait quoi dans le couple Seidman ?»« Impossible de dire », réplique Christine, « puisque nous travaillons ensemble jour et nuit. » Ce que je sais, c'est que John est le plus brillant de nous deux. Mais John intervient immédiatement, il dit « Mais non, c'est Cricket qui est la meilleure pour les détails importants. » Dieu me garde d'intervenir dans ce débat, mais pas plus que même le jury n'a été capable de discerner lequel méritait plus que l'autre le grand prix. Alors nous l'avons discerné à tous les deux. Car, n'est-ce pas, l'homme ne saurait séparer ce que la science a uni. Ils ne sont pas le seul exemple de ces femmes et de ces hommes qui, en science, travaillent au coude à coude. Certains de ces couples sont célèbres, particulièrement ici, Marie et Pierre Curie, Gertie et Karl Cory, Irène et Frédéric Joliot-Curie, j'en passe, mais la plupart sont ignorés du grand public. Et c'est aussi en pensant à eux que le jury du Grand Prix Le Foulon de Lalande a été particulièrement heureux cette année de distinguer, grâce à la générosité d'une femme de cœur, une femme de science et son mari, qui font naître un espoir chez des femmes et des hommes atteints de maladies cardiaques encore trop mal connues.
La parole est maintenant à Monsieur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour la présentation des lauréats du Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D.
La Fondation Louis D, Institut de France, décerne chaque année un Grand Prix scientifique et un Grand Prix humanitaire ou culturel alternativement. Ces Grands Prix sont d'un montant très élevé, 750 000 euros, de l'ordre des plus Grands Prix internationaux. Une fraction importante du montant de ces prix est dévolue au soutien de programmes de recherche pour le prix scientifique et à des actions caritatives ou culturelles pour les autres prix. Mon confrère Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, présentera l'organisation qui reçoit cette année le prix humanitaire. Le prix scientifique est attribué une année sur deux à l'échelle internationale, puis revient l'année suivante à des chercheurs français ou étrangers travaillant en France. Le jury international est formé d'experts désignés par 10 académies des sciences parmi les plus prestigieuses du monde, incluant bien sûr notre compagnie. Ce jury sélectionne puis classe 10 candidats ayant eu une contribution exceptionnelle dans le thème de recherche sélectionné par le Conseil de la Fondation pour l'année en cours. L'Académie des sciences sélectionne puis classe les meilleurs de ces deux candidats qui sont proposés au Conseil de la Fondation qui opère le choix final. L'humanité est exposée depuis son apparition sur Terre à la survenue d'événements graves et imprévisibles qui peuvent mettre son existence en péril. L'émergence de nouvelles maladies infectieuses en représente un des exemples les plus spectaculaires, mais aussi des plus inquiétants. Les grandes épidémies d'autrefois, telles que la peste ou le choléra, étaient dues pour l'essentiel à des bactéries. Aujourd'hui, le risque le plus important concerne des maladies virales. Après le sida, dans les années 80, de nouvelles craintes sont apparues, notamment la grippe aviaire et le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Trois maladies dues à des virus d'origine animale. Ce sont ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme qui représentent aujourd'hui la cause majeure de ces nouvelles maladies infectieuses qui ont été choisies pour le thème du prix scientifique Louis D. 2007. Les lauréats en sont Albert Osterhaus et John Skeel. Le professeur Albert Osterhaus est de nationalité néerlandaise. Après des études de sciences vétérinaires, il s'est très rapidement engagé dans la recherche sur les maladies virales des animaux, dont il est devenu un des maîtres incontestés. Il dirige actuellement un très important institut de recherche à l'université Erasmus de Rotterdam. L'équipe du professeur Osterhaus s'est distinguée au fil des années par une série de contributions majeures concernant les plus grandes et les plus importantes des maladies virales des animaux. En 1997, il fut le premier à identifier le maintenant trop fameux virus H5N1 responsable de la grippe aviaire et a démontré la capacité de ce virus d'infecter des hommes. En 2003, il fut également le premier, en quelques semaines, à identifier le virus du syndrome respiratoire aigu sévère, qui était responsable d'une épidémie grave et soudaine en Asie, avec le risque possible de l'extension dans le reste du monde. L'identification des virus responsables de ces deux maladies, réalisée par le professeur Osterhaus, et les tests diagnostiques qui en découlèrent, ont permis à l'Organisation mondiale de la santé de mettre en œuvre de façon très rapide toute une série de mesures qui ont contribué à limiter l'extension de l'infection. Au total, l'équipe du professeur Osterhaus a identifié plus de 20 virus responsables de maladies chez l'animal, avec la possibilité d'extension à l'homme. Ces virus étaient d'origine très diverse, à partir d'espèces telles que le pinson, la pintade, le dauphin, le phoque et plusieurs espèces de singes. Les études du professeur Osterhaus ont permis des progrès considérables dans la compréhension de l'épidémiologie de ces infections. Elles permettent aussi d'analyser comment ces virus qui aujourd'hui se transmettent par contact direct de l'animal à l'homme pourraient acquérir la capacité redoutable de se transmettre entre hommes avec le risque associé de pandémie. En bref, une œuvre considérable qui nous permet d'aborder cette menace de diffusion de ces maladies virales transmissibles de l'animal à l'homme avec une certaine sérénité, grâce en particulier aux efforts possibles qu'elles permettent pour la découverte de nouveaux agents antiviraux et de vaccins. Sir John Scales est de nationalité britannique. Il a dirigé jusqu'à l'an dernier le très prestigieux National Institute for Medical Research à Mill Hill, près de Londres. Les travaux de John Scales ont éclairé d'un jour nouveau les mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels le virus de la grippe aviaire pénètre dans les cellules infectées en montrant le rôle d'une molécule, une glycoprotéine du virus appelée hémagglutinine. Il avait préalablement rapporté la première description de la structure tridimensionnelle de cette molécule après l'avoir cristallisée. Il a également décrit les facteurs qui conditionnent la fixation du virus à la cellule, sur son récepteur, l'acide salicylique, puis l'entrée dans la cellule et les changements conformationnels qui conduisent à la fusion du virus avec la membrane cellulaire. John Scales a également précisé les sites de liaison du virus à son récepteur et les motifs antigéniques contre lesquels sont dirigés les anticorps produits par les malades infectés par les virus. Autant de travaux qui, eux aussi, et de façon complémentaire avec ceux d'Albert Osterhaus, ouvrent des perspectives considérables pour de nouveaux traitements de ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme. L'Institut de France est honoré et heureux, grâce à la générosité de la Fondation Louis D, de recevoir et de témoigner son admiration à deux scientifiques aussi prestigieux, Albert Osterhaus et John Scales, qui ont contribué de façon exceptionnelle à la lutte désormais engagée avec détermination contre ce nouveau fléau que représentent les anthropozoonoses. Albert Osterhaus et John Scales.
La parole est maintenant à Monsieur Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour la proclamation des lauréats du prix scientifique de la Fondation Simone et Cino Del Duca.
Le prix et les subventions qu'il est possible à l'Institut de France de remettre l'est au titre de jeunes équipes et de chercheurs confirmés. Ensemble, l'ensemble de ces dons s'élève à 850 000 euros. La Fondation délivre un prix que nous appelons le Grand Prix, et cette année, il a été remis à Monsieur Prost et à M. Joanny. Le premier est directeur d'un des grands laboratoires de France, qui est le laboratoire de l'École de physique et chimie industrielle de Paris. Le second est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et dirige une équipe de physico-chimie à Curie. J'insiste sur les caractéristiques des lieux où ont travaillé ces hommes, parce que l'essentiel de leur œuvre est d'avoir ouvert des champs qui, avant eux, ne l'étaient pas. Et ils ont pu le faire parce qu'ils étaient de deux origines différentes et parce qu'ils travaillent dans des instituts très particuliers qui viennent d'être créés. En outre, trois subventions à de jeunes chercheurs entourés de jeunes équipes ont été alloués, et je citerai pour les mathématiques van der Linde-Werner, dont on a beaucoup parlé cet été à propos d'un colloque de mathématiques. Il est professeur à l'Université de Paris-Sud. Pour les sciences mécaniques, à Patrice Abri, directeur de recherche au CNRS et à l'École normale supérieure de Lyon. Pour les sciences de l'univers, à François Georget, chargé de recherche au CNRS à l'Université Pierre et Marie Curie. Et là, il vaut la peine de définir deux points. Le premier est de dire comment se sont faits ces choix. Les jurys sont désignés par voie d'élection au sein des sections correspondantes de l'Académie des sciences. Et il n'est pas possible d'être plus de 2 ans membre d'un jury. Et en outre, ceux qui relèvent des disciplines scientifiques et qui sont membres d'autres académies que l'Académie des sciences. Les appels d'offres sont classiques. Compte tenu de ce qui est indiqué ici, nous savons qu'ils sont européens et le jury retient avait retenu cette fois-ci 5 candidats parmi la quinzaine qui s'était présentée. Parmi ces 5 candidats, un classement est fait. Les dossiers sont envoyés ensuite à des spécialistes étrangers, les leaders dans leur profession. Et eux ne nous donnent pas le classement, mais des éléments, et le jury finit par retenir, au terme de longues discussions, 2 membres qui sont présentés au jury de la fondation elle-même et cette fondation choisie. Ce qui est également important, et c'est le deuxième point, chacune de ces équipes, qu'elles soient confirmées, comme les lauréats du prix, ou très jeunes, voit l'affectation pour chacune d'entre elles de 2 contrats de post-doc. Pourquoi a-t-on fait cela et pourquoi la Fondation a-t-elle soutenu? C'est l'apparition et la transformation de la recherche universitaire qui l'a posée. La recherche universitaire est maintenant accomplie par des chercheurs professionnels, par des apprentis-chercheurs qui présentent leurs thèses. Il fut un temps où les thèses étaient relativement longues, elles sont maintenant courtes, 3 ans. Et il est apparu que, après la thèse, il est important d'aller à l'étranger de préférence, ou en tout cas dans d'autres laboratoires que celui où on a été formé, pour y apprendre les nouvelles techniques et surtout pouvoir bénéficier d'indépendance par rapport au laboratoire d'origine. C'est le système des post-docs. Il est très mal représenté en France. Les essais sont difficiles et le système des fondations et de cette fondation-là particulièrement, aide à nourrir les laboratoires avec ces jeunes talents. 8 seront ainsi recrutés. Lorsque l'on se promène dans des laboratoires américains, anglo-saxons en général, il y a des permanents et il y a toute une kyrielle de post-docs. Et c'est eux qui sont les éléments qui vont demain faire les découvertes. Cette catégorie de chercheurs est absente de nos laboratoires. Le prix est accordé pour conduire des recherches et celles qui ont été choisies pour Jacques Pro et Jean-François Joigny a le titre de biomimétisme du mouvement cellulaire, modélisation théorique et expérimentale. Ce travail est à la jonction de deux corps disciplinaires tout à fait étrangers jusqu'à présent les uns aux autres, ou au moins sans pénétration forte et intime. Il s'ensuit que les phénomènes biologiques ne sont pas ou peu ou mal exprimés dans les termes et avec la rigueur que les physiciens ont l'habitude d'utiliser. Et c'est ça qui a été la caractéristique de ce travail. Tous deux ont déjà œuvré et découvert un certain nombre d'éléments qui les ont rendus célèbres. C'est ainsi qu'ils ont, constatant que l'ordre de grandeur des milieux cellulaires est tout à fait associé à la physique, ils ont pu ainsi faire les découvertes sur la mobilité, par exemple. La mobilité à l'intérieur d'une cellule. Comment cette mobilité correspond-elle aux lois de la dynamique physique? Et en quoi la biologie peut-elle, à ce point, être élucidée? Alors, ils ont commencé, bien sûr, par ce qui est le plus géométrique, c'est-à-dire les parois cellulaires, c'est-à-dire les squelettes. Et tous deux ont obtenu de très beaux succès. Ce qui est le plus important, ce pourquoi ils ont obtenu ce prix, c'est la méthode qu'ils ont choisie pour aborder le sujet très étudié en France qui tourne autour du cancer. C'est parce qu'ils ont voulu examiner les mitoses, par exemple, c'est la division cellulaire. La division cellulaire implique des mouvements. Il faut les traduire en termes physiques, les expliciter en termes d'énergie. La stabilité de l'axone cellulaire, les fissions des microtubules, les transports intracellulaires, le mouvement des flagelles, voilà leur programme. Ce programme constitue la première opération. Il est très proche de ce qu'ils firent et de ce qu'ils ont coutume d'enrichir de leur savoir. Mais surtout, ils veulent, à la fin de ce programme, non plus parler de cellules, mais de tissus, c'est-à-dire d'ensembles cellulaires. Et ces ensembles cellulaires, c'est bien sûr quand ils ont des proliférations anarchiques qu'ils présentent les plus grandes difficultés. Et voilà donc des physiciens très bien armés dans cette discipline où ils sont des hommes remarquables. Les voilà donc s'associant depuis quelques années, mais avec ce programme-là, ils sont au cœur de leur opération, s'associant à des biologiques. Il se trouve que très récemment, il a été créé des institutions de la République, c'est les réseaux thématiques de recherche avancée, qui ont permis à des établissements d'œuvrer ensemble sur une thématique associant physique et biologie, c'est-à-dire l'école de physique et chimie industrielle de Paris. Vous savez, ce réservoir à prix Nobel qui, depuis quelques années, illustre la France. Il y a également, parmi les partenaires, l'Institut Curie, l'École normale supérieure et le CNRS. C'est dans ce milieu-là, avec des hommes ayant d'une part la connaissance de l'homme et la biologie, et d'autre part ces physico-chimistes, que ce défi pourrait être levé. Et c'est ce pari-là que le jury a souhaité mener et a souhaité rendre possible. Faire passer cette physique-là dans la biologie, c'est un pari en effet, mais des paris comme ça, c'est ceux qui font de la science qui réussit. Alors,
la parole est maintenant à Madame Nicole Le Doirin, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, pour la présentation du lauréat du prix scientifique de la Fondation Énergie.
La Fondation Énergie Institut de France a été créée en 1999 par Monsieur Jean-Paul Baudecroux dans un but humanitaire et de soutien à la recherche. Son activité s'exerce dans le domaine de la biomédecine et plus particulièrement des neurosciences. La Fondation attribue chaque année un grand prix européen destiné à récompenser et à encourager des travaux scientifiques d'un chercheur ou d'un groupe de chercheurs travaillant dans une institution publique ou privée. En outre, elle fait bénéficier de jeunes équipes œuvrant en France de subventions substantielles destinées à les aider à lancer leurs projets. Les thématiques proposées pour le prix et les subventions sont définies chaque année et font l'objet d'un appel d'offres largement diffusé. Au nom de mes confrères du Conseil scientifique de la Fondation, les professeurs Jean-François Bach, qui en est le président, Yves Laporte, Pierre Buzère, Jean Rosa, Alain Prochian, Michel Lemoyle, et en mon nom propre, je tiens à remercier ici très sincèrement M. Jean-Paul Baudecroux pour son action en faveur des chercheurs qui se consacrent aux problèmes difficiles que pose le système nerveux et ses dérèglements. Le sujet du Grand Prix Énergie 2007 portait sur les pathologies de la mémoire. Le prix a été attribué conjointement à Francis Eustache, professeur de psychologie à l'Université de Caen, directeur d'une unité de recherche dépendante à la fois de l'INSERM, de l'EPHE et de l'Université, et à Béatrice Desgranges, docteur en psychologie, chargée de recherche INSERM dans cette même unité. Les travaux de ces chercheurs portent sur la mémoire humaine chez le sujet sain aux différents âges de la vie et sur le sujet atteint de diverses pathologies. La maladie d'Alzheimer et syndromes apparentés tels que la démence frontotemporale, la démence sémantique et divers autres syndromes amnésiques. L'originalité et l'efficacité des travaux menés dans cette unité tiennent à leur caractère pluridisciplinaire. L'équipe regroupe une cinquantaine de membres comprenant des enseignants-chercheurs, des cliniciens, des ingénieurs, ainsi qu'une vingtaine d'étudiants et doctorants. De plus, elle bénéficie des ressources de haute technologie du Centre de neuroimagerie de Caen, dit Gipsy-Céron. Le professeur Eustache et le docteur Desgranges ont, avec leurs collaborateurs, mis au point des méthodes originales d'exploration cognitive de la mémoire qui sont associées à des techniques d'imagerie morphologique anatomique et fonctionnel, faisant appel à la résonance magnétique nucléaire, l'IRM, à la tomographie par émission de positons, TEP, ainsi qu'à l'électrophysiologie. Il s'agit d'une opération d'envergure qui se déroule sur deux sites, le CHU de Caen où sont sélectionnés les patients et où sont effectuées les évaluations neuropsychologiques et physiologiques, et au Gypsy-Cérón où se déroulent les examens faisant appel à l'imagerie cérébrale. Cette organisation rationnelle fait que l'unité dirigée par Francis Eustache fait de l'unité dirigée par Francis Eustache la seule structure de recherche et en France et une des rares en Europe à se consacrer avec une approche conceptuelle aussi originale et des moyens aussi performants aux structures cérébrales qui sont impliquées dans les fonctions mnésiques et à leur dysfonctionnement. Les recherches de ce groupe apportent des informations sur l'organisation cérébrale des systèmes de mémoire, les modifications et réorganisations qu'ils subissent au cours de la vie chez des sujets normaux et chez des patients atteints de troubles mnésiques. Elles sont focalisées en tout premier lieu sur les pathologies neurodégénératives du cortex cérébral, dont l'importance en santé publique s'accroît avec l'allongement de la vie humaine. L'approche combinée de neuropsychologie cognitive et de neuroanatomie fonctionnelle, qui est le point fort de cette unité, a permis de mettre en relation les résultats fournis par l'imagerie cérébrale et les données cognitives grâce à des méthodes de corrélation à la fois cognitivo-morphologique et cognitivo-métabolique élaborées par ces chercheurs. L'équipe vieillissement et démence, dirigée par Béatrice Desgranges, a pu identifier les atteintes cérébrales spécifiques qui prévalent dans les différentes pathologies, la maladie d'Alzheimer, la démence frontotemporale, la démence sémantique, ce qui permet d'expliquer la diversité de la symptomatologie cognitive constatée dans ces différentes situations. Elle a clairement établi aussi que les modifications cognitives ainsi que leurs substrats cérébraux observés lors du vieillissement du sujet sain sont fondamentalement différents de ceux qui sont dus à la survenue d'une maladie neurodégénérative. Le volet mémoire et amnésie, qui est développé plus particulièrement dans l'équipe de Francis Eustache, fait appel à la neuroimagerie pour distinguer la nature et la mise en œuvre des différents types de mémoire, mémoire implicite, mémoire épisodique, mémoire sémantique. En se basant sur la TEP et l'IRM, on parvient en effet à identifier les principales structures cérébrales impliquées dans ces différentes classes de mémoire. Ce travail, en quelque sorte normatif, cherche à combler ce qui peut parfois paraître un fossé entre la clinique et la neuropsychologie et surtout la neurophysiologie de la mémoire. L'ensemble de ces travaux ont amené Francis Eustache, Béatrice Desgranges et leurs collaborateurs à mettre en œuvre la valorisation des résultats qu'ils ont obtenus. Ils ont en particulier mis au point des méthodes de visualisation des anomalies structurales et fonctionnelles du cerveau, permettant d'établir un diagnostic très précis chez des patients atteints de ces maladies neurodégénératives qui atteignent malheureusement un nombre de plus en plus important de patients. Ces méthodes sont largement diffusées et utilisées en clinique courante. Elles peuvent aussi être adaptées à l'exploration de maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Enfin, des procédures de prise en charge mises au point par ce groupe sont aussi largement utilisées dans des centres de rééducation. En conclusion, les travaux réalisés par Francis Eustache et Béatrice Desgranges sont de tout premier plan. Leur qualité conceptuelle et méthodologique, ainsi que leur originalité, leur confèrent une place majeure dans les recherches poursuivies actuellement au niveau international dans le domaine de la mémoire humaine, normale et pathologique. C'est pour cette raison que le Conseil de la Fondation a décidé de leur attribuer à l'unanimité le Grand Prix Énergie 2007.
Je vais à présent vous présenter le mécénat humanitaire et culturel des fondations de l'Institut de France. Le mécénat n'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'Institut de France. La tradition en a précédé d'un siècle et demi la création. L'Académie française reçut en effet, très tôt après sa naissance en 1635, une donation de Guès de Balzac pour récompenser l'éloquence sacrée et la poésie. Toutes les académies nées ensuite se sont données pour mission de soutenir intellectuellement et matériellement, grâce aux moyens publics ou privés qu'elles pouvaient rassembler, la culture, le savoir et aussi les besoins des personnes démunies. Supprimée en 1793 par la Convention, mais remplacée presque aussitôt par l'Institut, puis recréée aux côtés de l'Institut maintenu, ces académies n'ont cessé d'œuvrer au progrès du savoir de la nation, selon la belle formule de Condorcet, et d'y apporter une contribution grandissante. La tradition de mécénat est donc bien ancrée dans l'histoire des institutions rassemblées aujourd'hui sous cette coupole. Les fondations musées de l'Institut et des académies, comme Chantilly, les musées Jacquemart-André ou Marmottan, en portent témoignage. De même que les fondations charitables dont s'honorent les diverses compagnies. Ce qui est nouveau, c'est l'élargissement du champ d'action de ce mécénat, grâce aux moyens considérables dont l'Institut de France dispose aujourd'hui pour mener à bien des projets dont le nombre ne cesse de croître. Ce qui est nouveau aussi, c'est la part grandissante d'un mécénat culturel et humanitaire dans cette évolution. L'aide à la culture avait trop longtemps été tenue en France pour domaine privilégié du souverain et des grands seigneurs, puis de l'État, qui se voulait acteur principal du développement culturel et artistique. Les préoccupations humanitaires ont certes pris une place importante dans la vie des sociétés depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ici encore, le mécénat privé a été longtemps freiné par le rôle décisif revendiqué par l'État. Au début de notre siècle s'opère une véritable révolution, dont je vais tenter d'indiquer ici les conséquences pour l'Institut. La loi sur le mécénat, votée en 2003, a donné enfin une pleine légitimité aux fondations privées, encourageant particuliers et entreprises à se faire mécènes, comme le font de longue date leurs homologues dans les pays anglo-saxons notamment. Cette évolution a eu d'immenses effets à l'Institut, parce qu'à sa tête se trouvait au même moment M. Pierre Messmer, aujourd'hui chancelier honoraire. Son expérience d'homme d'État, sa réputation de très grande rigueur, sa volonté passionnée de faire de l'Institut le premier mécène de France ont convaincu des donateurs nombreux de répondre à son appel. J'ai souligné ici l'an dernier combien le fonctionnement des fondations de l'Institut encourageait aussi les généreux donateurs à se tourner vers lui. Permettez-moi d'en rappeler brièvement certains traits, la souplesse et la reconnaissance de la diversité d'abord, qui permettent d'adapter chaque fondation à son objet. Fondation à vocation multiple, scientifique et culturelle, ou culturelle et humanitaire, ou bien fondation spécialisée, toutes trouvent place à l'Institut avec un statut, un mode de fonctionnement élaboré en accord avec leurs fondateurs, en tenant compte de leurs intentions et de leurs vœux. Comment ne pas souligner aussi que ce mécénat bénéficie de la contribution très active et bénévole des membres des cinq académies, ce qui permet à l'Institut de disposer, dans cette communauté, de toutes les expertises nécessaires aux choix effectués. Si les fondateurs se tournent avec confiance vers l'Institut, c'est qu'ils savent sa capacité à mobiliser les membres des cinq académies, c'est-à-dire des connaissances, une réputation scientifique, un dévouement incomparable. La qualité des lauréats, l'importance culturelle et sociale des projets soutenus, le suivi de ceux qui ont été retenus, expliquent aussi le crédit accordé à ce mécénat et qui constitue le caractère fondamental des relations entre l'Institut et ses mécènes, combien généreux. Cela explique aussi l'admiration grandissante de la société à l'égard des mécènes qui contribuent à mettre le savoir et la solidarité au service du plus grand nombre. Par ce mécénat, s'opère progressivement une réconciliation entre une société qui fut souvent méfiante envers ceux qu'elle tenait pour des possédants et ces derniers dont elle perçoit la volonté d'user de leurs biens au profit de tous. Deux grandes fondations de plein exercice interviennent dans les domaines humanitaires et culturels dont je dois rendre compte. Tout d'abord, la Fondation Louis D, qui décerne chaque année en alternance un prix culturel ou un prix à vocation humanitaire. Mais dans les deux cas, ce prix qui se situe, il faut le souligner, à la hauteur du prix Nobel financièrement est toujours destiné à récompenser une entreprise ou un projet collectif et non une personne. La Fondation Louis D accorde aussi tout au long de l'année des subventions plus spécifiques. C'est ainsi qu'en 2007, elle a apporté sa contribution à la restauration d'un retable du XVIIe siècle dans une église de Calais, participé à la création d'appartements pour adultes handicapés et à l'équipement d'un service de chirurgie orthopédique pour enfants dans un hôpital de Kaboul. Le Grand Prix culturel de la Fondation Simone et Cino Del Duca récompense, à la différence de la fondation précédente, une personne. Cette fondation décerne de même chaque année des prix de peinture, de sculpture et de composition musicale et apporte son soutien par des bourses conséquentes à des jeunes écrivains et à des jeunes musiciens. La Fondation Del Duca subventionne aussi des projets humanitaires et culturels. Enfin, elle décerne chaque année un grand prix d'archéologie à une équipe afin de l'aider à poursuivre ses recherches. Ce prix est attribué sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et remis lors d'une séance des prix propres à cette académie. Je veux saluer ici le lauréat de 2007 et son équipe. Monsieur Jean-Yves Empereur, direction d'études Alexandrine, a reçu ce prix pour son projet de restauration et d'aménagement pour l'ouverture au public de la citerne El Nabi à Alexandrie, qui est une véritable cathédrale souterraine. La réalisation de ce projet aura un immense retentissement et contribuera à mettre en lumière encore davantage le lien culturel qui unit la France et l'Égypte. Au chapitre du mécénat en faveur d'un chef-d'œuvre culturel menacé, il faut citer encore la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly, créée par l'Agacan pour restaurer et assurer l'avenir du domaine légué à l'Institut par le duc d'Aumale. Par cette démarche infiniment généreuse, l'Agacan a aussi ouvert une brèche dans des pratiques administratives lourdes en impliquant des collectivités et l'État dans une action de sauvegarde commune. C'est un exemple à méditer. Les chefs-d'œuvre en péril, dont l'Institut est comptable, doivent aussi beaucoup à l'action de la Grande Société d'assurance Generali et à son président, M. Antoine Bernheim, dont je salue la présence ici. Cette action apporte un soutien constant à divers projets, le dernier en date étant la restauration des admirables fresques du Primatis de l'abbaye de Chaly. C'est en grande partie à la générosité de ce mécène que le public doit de découvrir aujourd'hui avec émerveillement ce que l'on nomme la chapelle Sixtine du Vexin. La restauration du patrimoine est aussi l'objectif de la fondation Lefort Beaumont, dont les efforts sont tournés vers le patrimoine cistercien, notamment l'abbaye de Clairvaux et ses dépendances, telles la grange de Beaumont. Cette fondation a aussi participé à la restauration de l'abbaye cistercienne de Chaly, et par ailleurs, elle apporte son aide au développement du musée de la Vénerie de Senlis. Enfin, elle prend en charge des publications savantes qui ne pourraient pas exister sans de tels concours. L'art et la culture bénéficient du soutien de fondations remarquables dont les objectifs sont parfois multiples, parfois très précis. La Fondation Janelli et Jean-René Fourtout, qui sera aussi évoquée au chapitre humanitaire, contribuent aux échanges entre les professionnels de l'art contemporain du monde entier à l'occasion de rencontres organisées à Marrakech. Elle soutient par ailleurs des artistes contemporains par des bourses, des expositions et par l'achat de leurs œuvres. En 2007, on lui doit la création d'une bibliothèque associative d'art moderne et contemporain à Rabat et un projet de tutorat artistique. La Fondation Art Dialogue encourage les œuvres d'art conçues pour la rue afin de développer le dialogue social. La Fondation Coulon attribue le prix Georges Coulon à un sculpteur européen âgé de moins de 30 ans pour une œuvre figurative, tandis que le prix de peinture de la Fondation Aurélie Nemours récompense une œuvre inspirée de l'esprit de création figurative de sa fondatrice. La Fondation Écart entend promouvoir l'enseignement et la création artistique dans tous les domaines, et aide de jeunes artistes, notamment par l'organisation d'expositions. La Fondation Cora, enfin, soutient la recherche dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et sociales, en attribuant des prix, des aides et des bourses. L'éducation et tout particulièrement au cœur des préoccupations des fondations Blanc-Ménil et Sophie Germain. La fondation Blanc-Ménil aide des projets individuels ou collectifs en faveur de la formation et du développement culturel et scientifique. Ces projets doivent permettre de favoriser des rencontres et des colloques en France et à l'étranger dans un esprit de connaissance de l'autre et de respect des cultures et des sensibilités. En 2007, cette fondation a scolarisé des enfants dans les cycles primaires et secondaires de deux écoles francophones du Liban, scolarisé des enfants maliens et parrainé de jeunes volontaires dans des quartiers défavorisés en France. Enfin, elle a créé deux unités de suivi de crédit en Haute-Égypte. La Fondation Sophie Germain décerne un prix de mathématiques à un jeune chercheur, cela a déjà été évoqué, et des bourses à des élèves du lycée Sophie Germain dont les familles sont en difficulté financière. Enfin, elle aide à la distribution de repas gratuits à l'école. Information et communication contribuent aussi à l'éducation et à la formation des hommes. Les fondations Steria et Pierre Dumas en ont fait leur champ d'action privilégié. De l'éducation, les fondations glissent volontiers vers l'humanitaire, qui est un domaine en constant développement. Ici encore intervient la fondation Jeannely et Jean-René Fourtou, préoccupée de soutenir des communautés en France ou hors de France dans les domaines de l'éducation, de l'alimentation, de la santé. L'apprentissage du français, le soutien à la francophonie en Afrique, au Maghreb, en Amérique latine, figurent parmi ses missions, ainsi que des recherches permettant d'améliorer l'approvisionnement en eau de certains pays. En 2007, on doit à cette fondation la réalisation de projets d'adduction en eau potable au Maroc et la construction d'un internat pour jeunes filles. Le problème de l'eau est aussi au cœur des activités de la fondation Avenir Finance, ainsi que des questions plus générales d'environnement. En 2007, c'est au Cambodge, dans des villages isolés, que cette fondation a réussi à doter la population en eau potable. La fondation FITRUST agit dans les domaines de l'écologie et de l'environnement, mais elle a aussi, en 2007, tourné ses efforts vers les petites entreprises agricoles au Cambodge et vers certains problèmes de vie pratique de SDF en France. Le sort de l'enfance malheureuse et handicapée mobilise la fondation DAIS, qui a notamment travaillé à la réinsertion des enfants des rues à Dakar, et la fondation DEHEC, qui soutient des institutions aidant les enfants handicapés. Développement, solidarité et microcrédit, tel est le beau dessein de la fondation Rodolphe et Christophe Mérieux, avec laquelle on refermera ce livre d'or de la générosité. Cette fondation apporte son aide en France et à l'étranger, particulièrement dans les pays francophones en voie de développement, à la recherche scientifique, notamment sur les maladies infectieuses. L'éducation, la formation scientifique et le microcrédit sont ces moyens d'action privilégiés. En 2007, des microcrédits ont permis ainsi de soulager en Haïti la condition de nombreuses femmes affectées par le virus du sida. Cet extraordinaire déploiement d'efforts pour améliorer le sort des hommes par le savoir, la culture sous toutes ses formes et l'attention prêtée aux difficultés des plus faibles porte en définitive le nom de solidarité. C'est cet élan de solidarité, de conscience du malheur ou des besoins d'autrui qui pousse toujours davantage des volontés généreuses vers l'Institut. Il est significatif que des fondations nouvelles surgissent en brandissant cet objectif, telles les fondations Équilibre et Feuillade de Chauvin, dont les réalisations seront suivies avec attention lors des prochains bilans présentés sous cette coupole. Pour terminer, qu'il me soit permis de dire combien est admirable l'élan de générosité qui mobilise autour de l'Institut chaque année plus de fondateurs, plus d'efforts. Cet élan témoigne que dans un monde difficile et déconcertant, en raison des évolutions scientifiques et technologiques souvent très rapides et des pertes de repères traditionnels, la société répond, dans la personne de nos fondateurs d'abord, par un acte de foi dans l'avenir, dans la capacité de tous ses membres à se rassembler autour d'une culture vivante et d'un sens aigu de leur responsabilité commune à l'égard de tous leurs semblables et de toutes les causes humaines. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, qui va nous présenter le lauréat du Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D.
La Fondation Louis D, créée en janvier 2000, a pour objet de soutenir des personnes morales, associations, fondations ou ONG, qui se distinguent par des actions scientifiques, caritatives ou culturelles, remarquables par leur emploi, par leur ampleur ou par leur esprit novateur, quelle qu'en soit la forme et les modalités. Elle accorde chaque année des subventions et des bourses pour un montant qui atteint cette année près de 700 000 euros. Deux grands prix sont également attribués chaque année, l'un scientifique et l'autre, alternativement, culturel et humanitaire. Doté de 750 000 euros, le Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D avait été accordé en 2000 au Comité international de la Croix-Rouge pour un projet d'approvisionnement en eau à l'est de la République démocratique du Congo et pour la création d'une station principale de traitement de l'eau dans la capitale du Burundi. En 2003, il avait été attribué à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et en 2005 au Secours catholique pour son projet d'accueil médicalisé des adultes autistes dans la région parisienne. Il me revient de vous présenter le projet que le conseil d'administration de la Fondation Louis D a décidé de soutenir cette année. Il s'agit de l'œuvre dite du bateau tremplin, créée et conduite par l'Association des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, est destiné à financer l'acquisition, l'aménagement et l'amarrage sur la Seine d'une péniche où seront hébergés une trentaine d'hommes en cours de réinsertion professionnelle. Le budget d'investissement qui a été présenté au conseil d'administration de la Fondation Louis D pour ce projet s'élève à 2 340 000 euros. Issu de l'ordre souverain de Malte, ordre hospitalier, catholique et international, dont elle prolonge la vocation multiséculaire, l'Association des œuvres hospitalières françaises a été fondée en 1927 et reconnue d'utilité publique dès l'année suivante. Aujourd'hui, elle ne compte pas moins de 1 300 salariés, 5 000 bénévoles réguliers et 11 000 bénévoles occasionnels. Forte de cet immense potentiel du bénévolat, elle ne se contente pas de mener des actions au service de la santé des plus démunis, elle prend une part de plus en plus active à la lutte contre la précarité. En effet, l'incertitude de l'avenir pourrait devenir la nouvelle lèpre du XXIe siècle. Depuis 1999, une péniche de l'Ordre de Malte, le Fleuron, amarrée au port de Javel à Paris, accueille chaque jour une cinquantaine de personnes défavorisées. Cet hébergement d'urgence put durer 4 semaines. Au terme de ce séjour, un homme sur 10 environ retrouve un emploi ou une formation. L'aide matérielle apportée aux personnes sans domicile fixe, qu'il s'agisse des soins, de la nourriture ou de l'hébergement, si nécessaire qu'elle soit, est bien souvent infructueuse si elle n'est pas associée à une aide à la réinsertion. Pour les sans-abri, trouver un emploi et un hébergement ne suffit pas, il faut aussi trouver ou retrouver des repères sociaux. Lorsqu'un travail est proposé, lorsque survient ce moment heureux et prometteur de commencer une vie professionnelle, beaucoup vont loger dans des hôtels au mois et bien souvent, la solitude les reprend, le découragement les submerge, beaucoup renoncent, abandonnent et retombent dans le chômage. C'est pourquoi un autre projet, original et innovant, est né, celle du bateau tremplin qui fait l'objet du Grand Prix cette année. Dès le printemps prochain, une seconde péniche, acquise et aménagée par l'Association des œuvres hospitalières de l'Ordre de Malte, sera amarrée à Asnières. Une trentaine d'hommes, entre 18 et 50 ans, y seront accueillis et y bénéficieront d'un véritable accompagnement, tant au plan personnel que professionnel. Qui seront les 30 passagers, on les appelle ainsi, passagers du bateau tremplin, des jeunes peu familiarisés avec les règles du marché du travail, mais aussi des hommes moins jeunes, sortis du monde du travail, du fait d'un parcours personnel chaotique et souhaitant se réinsérer. Ils seront accueillis par 9 salariés et 50 bénévoles pendant une période allant d'un mois à 5 mois. En offrant un cadre matériel et surtout humain, le séjour à bord de la péniche a pour but de stabiliser l'existence de ces hommes en cours de réinsertion professionnelle, de leur permettre de reprendre confiance en eux et ainsi d'éviter une rechute dans ce cercle vicieux du découragement, du chômage et de la précarité. En les faisant échapper au péril de l'isolement, en étant présents pour l'écoute et pour l'échange, dans un lieu convivial et dans un cadre structuré, le personnel de la péniche les conduira du monde de l'assistanat au monde du travail. À cette œuvre hospitalière française de l'Ordre de Malte, héritière des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, s'écrit un nouveau chapitre d'une histoire déjà riche et longue où figurent tant de pionniers de la médecine moderne et de l'action humanitaire. Dans les siècles passés, la croix blanche à 8 pointes était l'emblème d'une flotte qui a marqué l'histoire maritime et militaire. Aujourd'hui, l'Institut de France, grâce à la Fondation Louis D, contribue à lancer le second bateau d'une flottille toute pacifique, projet novateur d'une œuvre qui aime à se reconnaître comme la plus grande armée charitable du monde.
Il me revient maintenant de vous présenter le lauréat du prix littéraire de la Fondation Simone et Cino del Duca. Le prix mondial del Duca a pour vocation, selon le vœu de sa généreuse fondatrice, Madame Simone del Duca, de mettre en lumière une œuvre porteuse d'un message humaniste et dont les qualités exceptionnelles lui ont assuré une reconnaissance française et internationale incontestée. Le jury de ce prix, placé sous la présidence de l'Académie française et rassemblant des membres de 3 académies, française, sciences, sciences morales et politiques, a couronné au cours des 2 années passées 2 personnalités, 2 œuvres qui répondaient pleinement aux intentions de la fondatrice. Simon Leys en 2005, Jean-Clair en 2006. Ces noms imposaient au jury de récompenser cette année aussi une personnalité et une œuvre non moins remarquables. Le choix du jury s'est porté sans difficulté et pour finir à l'unanimité sur Madame Mona Ozouf, dont les travaux et le rayonnement se sont depuis longtemps imposés en France et à l'étranger. La biographie de Madame Mona Ozouf annonce son œuvre à maints égards. Elle est fille d'instituteurs qui, tous deux, ont été des militants de la cause bretonne. Et la langue bretonne fit partie de son éducation. Ses études à Saint-Brieuc puis à Rennes furent exceptionnellement brillantes puisqu'elle obtint au concours général un premier prix de lettres puis de philosophie. Elle entra ensuite à l'École normale supérieure de Sèvres, la grande porte pour les jeunes filles en ce temps-là, et réussit l'agrégation de philosophie en 1955. C'est donc en principe une philosophe qui s'engage dans l'enseignement au lycée de Caen jusqu'en 1961 puis au lycée Fénelon à Paris. Ensuite, elle entre au CNRS, où elle terminera sa carrière comme directeur de recherche. et travaille aussi à l'École des hautes études en sciences sociales, où elle participa aux travaux du Centre de recherche politique portant le nom de Raymond Aron. Mais très tôt, les circonstances vont pousser la philosophe vers l'histoire. Elle épouse l'année de l'agrégation un historien promis à un très brillant avenir, Jacques Ozouf. Il lui fit rencontrer des historiens de sa génération qui vont renouveler la discipline, Emmanuel Leroy-Ladurie, Denis Richet, François Furet. Le dernier va l'intéresser et l'associer de très près à ses recherches. Mais c'est d'abord avec Jacques Ozouf que son travail s'oriente vers l'histoire, vers un domaine qu'elle partagera avec lui et que ses origines familiales encourageaient, l'histoire de l'école républicaine. Le premier ouvrage de Mona Ozouf, L'école, l'Église et la République, 1871-1914, publié en 1962, porte sur les polémiques qui entourent la naissance de l'école républicaine. Le même intérêt pour le problème scolaire et pour sa place dans la cité inspireront deux autres ouvrages remarquables. La classe ininterrompue, cahier de la famille Sandre enseignant, 1780-1960, publié en 1979, et L'école de la France, essai sur la révolution, l'utopie et l'enseignement, qui date de 1984. Mais déjà, la curiosité de l'historienne s'est tournée vers un autre champ de recherche particulièrement délicat, parce qu'il est alors dominé par l'école marxiste, c'est la Révolution française. Cette évolution est liée pour partie peut-être à un drame personnel. L'accident cérébral qui frappe Jacques Ozouf est contraint l'un des historiens les plus prometteurs de sa génération à réduire ses activités. Avec lui, à ses côtés, Mona Ozouf l'aidera à publier néanmoins la vaste enquête qu'il avait lancée à partir de questionnaires sur les instituteurs de la Belle Époque. Le fruit de ce travail sera un très stimulant ouvrage, La République des instituteurs. Puis, avec François Furet, elle va contribuer à renouveler la vision jusqu'alors assez polémique de la Révolution française. La part de Mona Ozouf dans cette réflexion bénéficie de sa formation philosophique. Elle y intègre les apports de l'anthropologie religieuse, de la réflexion sur la religion populaire. Elle y fait une grande place à l'histoire des idées et à celle des représentations. Dépouillant toutes les archives disponibles, elle s'est concentrée sur la fête de la Fédération et sur ses représentations pour publier en 1988 un ouvrage extraordinaire, La fête révolutionnaire, 1789-1799. À ce livre capital pour la compréhension des mentalités s'ajoute l'année suivante L'homme régénéré, consacré à l'étude de l'utopie révolutionnaire, au souhait de faire table rase qui toujours et partout hanta les révolutionnaires et à qui la grande rupture russe de 1917 avait donné un élan nouveau. Avec François Furet, toujours, elle imagine et dirige un dictionnaire critique de la Révolution française en plusieurs volumes, consacré successivement aux définitions, aux institutions, aux événements, aux acteurs. Enfin, dans la série de ses travaux sur la Révolution, elle a publié il y a 2 ans un récit passionnant, Varennes, la mort de la royauté, dans une collection célèbre où sont étudiées les journées qui ont fait l'histoire de France. Même si cette collection est en principe destinée à un vaste public et suppose que le récit des faits en forme le cœur, le livre de Mona Ozouf, passionnant, écrit dans un style raffiné, est avant tout une réflexion politique, profonde, sur le sens de l'événement relaté. Mais notre lauréate ne s'est pas contentée de cette démarche d'historienne éclairée par une formation et un regard philosophique qui déjà donnait à ses recherches une dimension particulière. La littérature est aussi, depuis plus d'une décennie, l'un des axes de son activité d'écrivain. Car ses écrits témoignent d'un art de l'écriture et d'une sensibilité littéraire exceptionnelle. Cette orientation commence avec Les mots des femmes, essai sur la singularité française, ouvrage dans lequel Mona Ozouf brosse 10 portraits de femmes, allant de Madame de Staël à Simone de Beauvoir, pour tenter de comprendre ce qui caractérise les relations entre sexes dans la société française. La courtoisie, l'acceptation de la différence, lui semble donner un tour modéré, sinon équilibré, à ces rapports, lorsqu'ils sont considérés au miroir de société où la confrontation est plus forte, ainsi par exemple des États-Unis. Puis, c'est le roman qui devient son véritable sujet de réflexion, même si l'historienne met tout son savoir et ses méthodes de recherche au service de cette exploration. C'est ainsi que dans La Muse démocratique, Henry James et les pouvoirs du roman publié en 1998, elle réfléchit à la manière dont ce romancier de l'intime, qu'elle comprend si bien, perçoit l'événement politique et en rend compte. Enfin, en 2001, Les aveux du roman, le XIXe siècle entre Ancien Régime et Révolution, montrent combien l'éclairage historique enrichit l'étude littéraire et inversement. Comment les grands romanciers de ce siècle, Madame de Staël, qui avait déjà mobilisé son attention, mais aussi Stendhal ou George Sand et tant d'autres, parlent de la Révolution. Comment ils incarnent la société où ils vivent et rendent compte de celle que la Révolution a fait disparaître. Le roman, jusque dans ses silences, est pour Mona Ozouf révélateur de la société dans sa longue durée, et non seulement dans le moment décrit. Cette historienne rigoureuse de l'école, de la Révolution, des idées, attachée à comprendre les rapports entre pédagogie, idéologie et politique, et dont tous les travaux sont le fruit d'une constante recherche, d'une vaste culture et d'incessantes lectures, est aussi capable, et peut-être sont-ce là les gènes que lui ont légués des parents instituteurs, de s'adresser au plus grand nombre. Dans la presse, ces chroniques du Nouvel Observateur, simples, claires, relèvent certes de la vulgarisation, mais la plus raffinée, et surtout du désir d'expliquer et de partager son savoir et ses idées avec des lecteurs que des livres plus ambitieux pourraient décourager. Mona Ozouf est en dernier ressort un écrivain, auteur d'une œuvre considérable aux multiples facettes, ouverte sur plusieurs disciplines, mais qui forme en définitive un ensemble cohérent. L'école, la Révolution, le roman, autant de portes qui aident à comprendre la société française. Son style limpide et élégant, si souvent célébré par tous les critiques, contribue à rendre cette œuvre de très haute qualité scientifique accessible à l'honnête homme au sens que l'on donnait naguère à ce mot. C'est tout cela que le jury a salué en attribuant son grand prix avec bonheur à Madame Mona Ozouf. Avant de lever la séance et de vous inviter à nous retrouver en salle Comtesse de Caen dans le pavillon occidental de ce palais, laissez-moi redire au nom de l'Institut de France nos vives félicitations aux lauréats des différents prix salués par le mécénat éclairé de l'Institut et des cinq académies et nos sentiments de vive gratitude à tous nos mécènes, créateurs des fondations abritées. C'est grâce aux uns et aux autres que cette cérémonie peut avoir lieu et que des efforts si remarquables trouvent ici une reconnaissance et peuvent être proposés en exemple aux jeunes générations. Merci. La séance est levée.
Vous venez d'entendre la séance solennelle de proclamation des grands prix et concours des fondations de l'Institut de France qui s'est déroulée le mercredi 13 juin 2007.